Bonjour et bienvenue, c'est l'émission Le quotidien des quotidiens, votre émission revue de presse quotidienne. C'est Hélène Denis qui vous accompagne en ce lundi 19 février 2018. Alors, Jean-Sébastien Laliberté est en congé aujourd'hui et demain, et c'est Maurice Bolduc qui est derrière la console. Bonjour Maurice.
Oui, bonjour.
Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas rencontrés, croisés. Ça va?
Oui, vous-même?
Oui, ça va bien, merci. Alors, mon cher, est-ce que vous avez préparé une chronique éphéméride?
Oui, en ce 19 février, ouais.
Allez-y.
Donc, aujourd'hui, ce serait la journée mondiale internationale de la baleine. C'est une journée soulignée par les écologistes du monde entier. Pour se rappeler bon, que les baleines existent, puis aussi pour faire sa défense et la protection de l'ensemble des mammifères marins. Parce que la chasse commerciale a été interdite en 1982, j'ai vu. Mais par la bande, il y en a qui disent on chasse, mais c'est de manière scientifique, donc on bypasse la loi. Quelques événements. En 1519, le conquistador Hernán Cortés arrive au Mexique où il va détruire l'Empire aztèque. En 1670, c'est l'émission de la première monnaie en Amérique française. En 1878, Thomas Edison fait breveter sa version du phonographe. S'il savait où ça rendait aujourd'hui, il serait peut-être agréablement surpris.
Oui.
En 1906, le médecin américain John Harvey Kellogg et son frère entrepreneur Will Kate Kellogg créent la Battle Creek Cornflake Company. Donc, nos petites céréales qu'on mange, que vous pouvez manger le matin, ça remonte à 1906. En 1918, la Russie soviétique abolit par décret la propriété privée de la terre, de l'eau et autres ressources naturelles. Bon, ça suit de quelques semaines, mois, la révolution russe. En 1928, un incendie aux mines d'or Hollinger à Timmins, en Ontario, fait 39 morts. En 1928, toujours le 19 février, c'est la fin des deuxièmes Jeux olympiques qui se tenaient à Saint-Moritz, deuxième jeu d'hiver, donc en 1928. En 1959, un accord reconnaissant l'indépendance de Chypre est signé à Londres par la Grèce, la Turquie et la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, en 1961, Joseph-Alexandre de Sèvres et Paul Langlais fondent la station privée CFTM qui deviendra quelques années plus tard TVA. En 1963, l'URSS informe le président des États-Unis, John F. Kennedy, que plusieurs milliers de ses 17 000 soviétiques stationnés à Cuba seront rapatriés après la crise de Cuba. En 1964, c'était la sortie du film « Les parapluies de Cherbourg », comédie musicale de Jacques Demy, qui nous faisait connaître, entre autres, Catherine Deneuve.
Et les très belles chansons de Michel Legrand.
Ah, ouais. Et j'ai même, s'il y a lieu, j'ai une version de Monique Lérac des parapluies de Cherbourg.
Ça vous parle. Oui?
Ouais. En 1980, Bon Scott, chanteur d'AC/DC, meurt étouffé. C'est un peu dégueulasse. Il meurt étouffé dans son vomi à la suite d'une soirée un peu trop arrosée. Qu'est-ce que tu veux? En 1989, Ottawa conclut que les versets sataniques sont légaux. Illégal, en fait, le roman. Le fisc avait bloqué l'importation du livre quelques jours à la suite de plaintes de musulmans intégristes. Donc, ça remonte pas à très récemment, les intégristes. Et le régime d'Iran avait mis une fatwa sur la tête de l'auteur Salman Rushdie. En 2008, Fidel Castro annonce dans l'édition électronique de la Gramma, qui est l'organe officiel du régime communiste là-bas, qu'il renonce à la présidence de Cuba. Quelques naissances. Nicolas Copernic, chanoine, médecin et astronome polonais, naît en 1473. En 1896, André Breton, écrivain français et un des pères du dadaïsme, naît, lui, en 1896.
Surréalisme aussi.
Mm-hmm. Pierre Barou, lui, naît en 1934. Pierre Barou, auteur, compositeur,
comme
interprète.
Comme nous voit, badabada.
Oui, entre autres, fondateur de l'étiquette Sarava. Et en 1967, plus près de nous, Madame Nathalie Bondil, qui est directrice et conservatrice du Musée des Beaux-Arts de Montréal, naît aujourd'hui. Bonne fête, Madame
Quelle
Bondil.
Quelle année?
En 1967.
En 67, tout était beau.
Oui, c'était l'année de l'expo. Ça lui donne 51 ans, la dame.
Merci, Maurice.
Et j'ai quelques décès.
D'accord.
André Gide, écrivain français, prix Nobel de la littérature en 47, meurt en 51. Olivier Villa-Légaré, acteur, chanteur québécois traditionnaliste aussi, meurt en 1978. Deng Xiaoping, qui a dirigé la Chine post-Mao, meurt en 1997. Charles Trenet, lui, nous quittait en 2001. Et le dernier, ben, c'est Umberto Eco, qui est écrivain philosophe français, qu'on avait connu entre autres par le nom de la rose.
Au nom de la rose.
Qui nous quittait en 2016. Et voilà, ça fait le tour de ce 19 février.
À la une de la presse aujourd'hui, éducation au cégep, de l'échec. Des milliers d'élèves échouent à la moitié de leurs cours et signent des contrats de réussite, entre guillemets, pour revenir en classe. Un engagement qui n'est pas toujours contraignant. Trop clément, nos cégeps? La presse à Salt Lake City, au paradis des entrepreneurs étudiants. Train de banlieue, rude hiver pour les fidèles. La chronique d'Yves Boisvert, pourquoi j'aime les jeux. Et pause famille relaxée, c'est la relâche, entre parenthèses, ou presque, culture, sport, jeux, bricolage. Week-end fatal en motoneige, encore deux motoneigistes qui ne rentreront jamais à la maison, de bons vivants qui mordaient à pleines dents dans la vie et qui ont laissé la leur sur les sentiers de motoneige en fin de semaine. Depuis le début de l'hiver, 17 motoneigistes sont morts au Québec et deux n'ont toujours pas été retrouvés. Est-ce que la sécurité est défaillante sur les sentiers? Non, en croit la famille de l'une des victimes et la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, FCMQ. Sa femme le suivait en arrière et lui a dit « Suis-moi, on rentre à la maison ». Il était tard et il voulait la protéger en allant moins vite. Il roulait peut-être bien à 40 ou 50 km à l'heure. À un moment donné, sa femme l'a perdu de vue. Ils l'ont retrouvé dans une curve à côté d'un arbre, raconte Régis McNichol, frère de Mario McNichol. Ce dernier a perdu la vie dans la nuit de vendredi à samedi près de la Malbaie dans Charlevoix. L'enquête confirmera le cours des événements. En attendant, la famille de M. McNichol, nouvellement grand-père, est si fière de l'être et convaincue qu'il n'a pas fait preuve d'imprudence ou de témérité. Les questions s'accumulent au même rythme que les morts, parmi lesquelles, est-ce que les sentiers sont suffisamment bien entretenus? On ne peut pas chialer contre les pistes de skidoo, ce sont des bénévoles qui s'en occupent. Ils font du mieux qu'ils peuvent, ils font ce qu'il faut pour que les motoneigistes soient en sécurité, estime le frère de Mario McNichol. La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec compte 1200 patrouilleurs bénévoles. Les sentiers sont entretenus par 200 clubs de motoneige et 4500 bénévoles. Alors, la motoneige en chiffres, je poursuis avec les chiffres. 180 000, c'est le nombre de motoneiges enregistrés. 200, c'est le nombre de clubs de motoneigistes. 16 ans, âge légal pour conduire une motoneige, moyennant un certificat d'aptitude pour les moins de 18 ans. Et 12 cm, épaisseur de glace minimum pour supporter une motoneige. L'utilisation des transports collectifs fait du surplace. La part modale des déplacements matinaux réalisés en transport collectif entre la maison et le travail n'a augmenté que de 1,5 % dans la grande région de Montréal au cours des 10 dernières années. Il n'y a vraiment pas de quoi pavoiser. D'abord parce qu'au moins 7 régions métropolitaines du Canada et des États-Unis ont fait mieux dans la même période. Ensuite, parce que la part des déplacements solos en automobile demeure à peu près la même depuis 15 ans dans la grande région de Montréal. Ces données figurent dans le plus récent bulletin de l'Observatoire Grand Montréal, rendu public hier par la communauté métropolitaine de Montréal. Cette analyse est limitée au déplacement des navetteurs entre la maison et le travail, qui représente environ la moitié de tous les déplacements réalisés quotidiennement en période de pointe dans les 82 municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal, CMM. Elle confirme plusieurs tendances observées au cours des dernières années dans la circulation du matin. Une progression des déplacements faits à vélo pour le travail, une augmentation marquée du nombre de véhicules en circulation sur les réseaux routiers et une perte d'intérêt pour les transports en commun dans près du tiers des villes de banlieue et dans presque la moitié des arrondissements de Montréal. En 2016, la région de Montréal arrive au troisième rang sur 41 grands centres urbains du Canada et des États-Unis pour la part des navetteurs qui vont travailler en transport en commun. La part modale s'élève à 23,5. Seules les régions métropolitaines de New York, 32,9, et de Toronto, 24,3, devancent la métropole du Québec à ce titre. Selon la CMM, Montréal pourrait toutefois glisser au cinquième rang d'ici peu, en se faisant déclasser par les régions de Vancouver et de San Francisco. Celles-ci ont connu des augmentations de presque 4 en 10 ans, alors que la proportion des navetteurs qui vont travailler en transport collectif a augmenté de 1,5 à Montréal durant la même période. 7 régions métropolitaines ont fait mieux que celle de Montréal entre 2006 et 2016. Nouvelle exclusive à la presse, Valérie Plante annoncera ce matin qu'un premier élu de l'ex-parti de Denis Coderre siégera à son comité exécutif tout en demeurant dans l'opposition, a appris la presse dans un geste d'ouverture qui pourrait pimenter les débats à l'Hôtel de Ville. Adrien Parizeau, conseiller municipal dans l'arrondissement d'Aoncic-Cartierville, sera chargé des questions de sport, des loisirs et de la jeunesse en tant que membre associé du comité exécutif, l'équivalent du conseil des ministres au municipal. Ce n'est pas la première fois que la nouvelle mairesse recrute dans les rangs de l'ex-formation politique de Denis Coderre, mais c'est la première fois qu'un élu issu de ce parti siégera au comité sous sa propre bannière. Jean-François Parenteau, connu du public pour ses responsabilités en matière de déneigement, a été élu avec équipe Denis Coderre, mais siège maintenant comme indépendant. Hier soir, la presse n'a pas pu obtenir d'entrevue avec M. Parizeau. Selon nos informations, c'est Adrien Parizeau qui aurait insisté pour ne pas avoir à abandonner son allégeance politique moins de 3 mois après avoir été élu sous cette bannière. Les responsabilités dont il hérite, les sports, les loisirs et la jeunesse, sont présentement entre les mains de Rosanie Filato, qui a battu l'ex-députée Elsie Lefebvre pour devenir conseillère municipale dans Villeray Parc Extension. L'élu conservera les dossiers sociaux, communautaires et liés à l'itinérance qu'elle mène déjà. À 27 ans, M. Parizeau est le plus jeune élu du conseil municipal. Il est le petit-fils de l'ex-premier ministre Jacques Parizeau, mort en 2015. Il s'est impliqué au Parti québécois pendant plusieurs années avant de faire le saut en politique municipale. Rectificatif, les funérailles de l'ex-journaliste de la presse Jean Beaunoyer seront célébrées dimanche prochain, le 25 février, et non le 18 février, comme nous l'avons écrit samedi, en la chapelle du complexe funéraire Magnus Poirier à Montréal à 19h. Nos excuses. La semaine aura des airs de printemps, mais oublions tout de suite l'idée des terrasses. Le redoux sera accompagné de quantités significatives de pluie. Jusqu'à mercredi, les températures oscilleront entre 5 et 12 degrés Celsius dans le sud du Québec et de 20 à 30 mm de pluie sont attendus, prévoit Environnement Canada. Demain, la ville de Québec pourrait recevoir des précipitations de pluie verglaçantes. Cet important redoux pourrait être porteur de mauvaises nouvelles. La pluie, s'additionnant au ruissellement dû à la fonte du couvert de neige, pourrait causer des inondations par endroits, avise Environnement Canada. De son côté, Pierre Corbin, d'Hydrométéo, reste prudent. Ça pourrait être important, mais il manque encore des données qui se préciseront lundi, aujourd'hui, mais si ça a débordé, ce sera mardi soir, demain et plutôt mercredi.
À l'abri pour une fois.
Fanny Bloom, un album qu'on attend dans les semaines à venir. Au mois de mars, on entendait la pièce « On s'aimera ».
À la une du Devoir, Pyeongchang 2018, Alex Beaulieu-Marchand a réalisé la descente de sa vie dimanche, permettant ainsi au Canada d'ajouter une médaille à sa récolte olympique. Le skieur acrobatique de Québec a remporté la médaille de bronze à l'épreuve de slopestyle. Québec encadre l'usage des pesticides, entre guillemets, néoniques. C'est le diminutif pour néonicotinoïdes. Utilisation du transport en commun, une hausse timide qui appelle à la mobilisation. Livre Cuba et les décombres de ses illusions, loin des touristes déjà nostalgiques d'un monde en voie de disparition, le journaliste Frédéric Lavoie s'est proposé d'encapsuler le présent, entre guillemets, de Cuba, non pas pour prédire son avenir, mais parce que ce présent aurait peut-être la force d'éclairer le futur. Les polyactifs, c'est mordu du multitâche qui bouscule le monde du travail. Congrès du NPD, le chef Jagmeet Singh a le Québec dans sa mire et voit Camillien Houd les enjeux d'une route à repenser. Culture, prix BAFTA, Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve repart avec deux récompenses. Actualité, Elvis, la drogue et moi, une chronique de Jean-François Nadeau, et Le monde, métastase en Syrie, une chronique de François Brousseau. Exit l'utilisation tous azimuts des néonicotinoïdes, ces pesticides tueurs d'abeilles, à l'instar d'un citoyen ayant besoin de médicaments, les producteurs agricoles devront bientôt obtenir une prescription de la part d'un agronome pour utiliser 5 des pesticides considérés comme les plus dangereux pour la santé humaine et l'environnement. Sans les interdire, Québec confirme ainsi de nouvelles restrictions sur l'utilisation des 3 néonicotinoïdes les plus courants, ainsi que l'atrazine et le chlorpyrifos. La ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, Isabelle Melançon, doit en faire l'annonce lundi. Elle sera en compagnie d'agronomes, d'apiculteurs et d'environnementalistes, des personnes susceptibles de faire partie d'un comité de suivi qui sera créé dans la foulée de ces modifications réglementaires. « L'Association des véhicules électriques du Québec vient de lancer une pétition exigeant le déploiement de 2000 bornes de recharge rapide au Québec. Selon le regroupement, la rareté des bornes rapides fait en sorte que plusieurs Québécois refusent d'acquérir des véhicules électriques. Le président de l'association, Simon-Pierre Rioux, interpelle le gouvernement. Il dit constater que le rythme de déploiement a nettement ralenti dans les 12 derniers mois, faute de partenaires financiers privés. Il croit que Québec pourrait utiliser le fonds vert pour financer l'installation de bornes rapides. Les jours de l'usine d'Oreo montréalaise sont comptés. Le géant Mondelez International avait annoncé la fermeture en 2016. Il fut un temps où tout le monde, où tout le quartier de l'Est, plutôt de l'Est de Montréal, environnant la biscuiterie de la rue Viaud, humait l'odeur des Oreos qui y étaient confectionnés. Cette époque sera définitivement révolue d'ici les prochains jours lorsque le géant mondial Mondelez International fermera pour de bon son usine montréalaise. Selon un porte-parole syndical, Pierre Grenier, plusieurs des 454 employés y travaillaient depuis plusieurs décennies. L'annonce de la fermeture en 2016 a été ressentie comme un choc. Après un arrêt graduel de la production, le bâtiment d'une superficie de 300 000 pieds carrés est finalement mis en vente. Le PQ reverrait la rémunération des médecins s'il est élu. Le Parti québécois a dévoilé dimanche sa stratégie en santé en vue des élections de l'automne prochain, disant notamment qu'un gouvernement du PQ décloisonnerait les actes cliniques, reverrait le mode de rémunération des médecins et réduirait la charge de travail des infirmières et des préposés. En conférence de presse dimanche à Montréal, le chef Jean-François Lisée, la porte-parole en matière de santé Diane Lamarre et le porte-parole en matière de services sociaux et de protection de la jeunesse, Dave Turcotte, ont présenté un programme du parti en santé, précisant bon nombre d'engagements chiffrés et d'échéanciers. La série de mesures inclut aussi l'implantation d'un réseau de cliniques d'infirmières praticiennes spécialisées, cliniques sans médecin destinées aux urgences mineures et au suivi de certaines maladies, et la création d'équipes d'infirmières et de pharmaciens en centres hospitaliers de soins de longue durée. Ces dernières semaines, le gouvernement libéral et son ministre de la Santé, Gaétan Barrette, ont été pris dans la tourmente relativement au salaire des médecins spécialistes et à un cri du cœur des infirmières sur leurs conditions de travail. La formation politique au troisième rang dans les intentions de vote selon plusieurs sondages qui placent la CAQ devant le Parti libéral du Québec choisirait également de rétablir la couverture publique de la Fondation In Vitro et le poste de commissaire à la santé et au bien-être. Dans la section éditoriale, une lettre intitulée « In Gun We Trust », l'argument de la National Rifle Association et de beaucoup trop d'Américains est que ce n'est pas le fusil d'assaut semi-automatique qui est le problème, mais le propriétaire du doigt sur la détente. D'accord, mais si le jeune Nicholas Cruz n'avait pu avoir qu'un lance-pierre en dessous de son lit, les choses auraient été très différentes, non? Et c'est signé Marc Boucher, Laval, 18 février 2018. La justice nigériane a libéré 475 nouveaux membres présumés de Boko Haram au terme de procès de masse où la majorité des personnes inculpées n'ont pas pu être condamnées faute de preuves suffisantes, a annoncé dimanche le ministère de la Justice. Des centaines de membres présumés du groupe djihadiste ont comparu cette semaine devant un tribunal installé dans une base militaire à Kenji, une ville reculée de l'État du Niger dans le centre du Nigeria. Au total, 1669 personnes étaient présentées à la barre à l'ouverture des audiences qui avaient démarré en octobre. Un premier groupe de 468 avait alors été libéré au bout de quelques jours. Boko Haram mène depuis 2009 une insurrection sanglante dans le nord-est du Nigeria, ayant fait plus de 20 000 morts.
Depuis quelques jours, je vis dans le silence des quatre murs de mon amour. Depuis ton départ, l'ombre de ton absence me poursuit chaque nuit et me fuit chaque jour. Je ne vois plus personne, j'ai fait le vide autour de moi. Je ne comprends plus rien parce que je ne suis rien sans toi. J'ai renoncé à tout parce que je n'ai plus d'illusion de notre amour. Écoute la chanson. Non, je ne pourrai jamais.
Monique Lérac qui nous chantait Les parapluies de Cherbourg. Et on vous rappelle que ce film, très beau film, sortait en cette date, 19 février 1964.
À la une du Journal de Montréal de ce 19 février, la descente de sa vie, le bronze pour Alex Beaulieu-Marchand. Quatre recruteurs se prononcent. Que vaut Max Pacioretty? Le fonds vert pour payer de vieilles dettes. Trois points de suspension, même celle du métro de Laval. L'argent du fonds vert pour payer le métro de Laval inauguré en 2007. Des dizaines de millions de dollars servent à rembourser les dettes de vieux projets. C'est un article de Charles Lecavalier en direct du bureau parlementaire. Pour l'année 2015-2016, le ministère des Transports MTQ a décaissé 110 millions pour le prolongement du métro de Laval, pourtant lancé sous le gouvernement Landry et mis en service en 2007. Au moment de l'inauguration du métro, le fonds vert venait à peine d'être créé. Le MTQ a aussi payé 114 millions pour le train de l'Est annoncé en 2007 et livré en 2014. Ces montants proviennent du programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes financé à près de 60 % par le Fonds vert durant cette année, selon un document présenté à des élus et obtenu par notre bureau parlementaire. Le MTQ explique que ces sommes sont toujours versées pour rembourser des emprunts associés avec ces deux projets et qui sont en lien avec le Fonds vert car il s'agit de transports en commun. Le MTQ affirme réduire de 21 000 tonnes les émissions de GES, gaz à effet de serre, grâce à ces projets en 2017. Pour Philippe Cousineau-Morin, directeur de Trajectoire Québec, cette situation est inacceptable. La compréhension publique du Fonds vert, c'est l'accélération de la lutte au changement climatique. Ici, on se rend plutôt compte que le MTQ a trouvé une nouvelle façon de financer des projets passés, a-t-il déploré. Le premier ministre canadien Justin Trudeau a donné le coup d'envoi hier d'une visite d'une semaine en Inde consacrée au renforcement des échanges et de l'investissement en visitant le Taj Mahal, la principale attraction touristique du pays. M. Trudeau, son épouse Sophie Grégoire Trudeau et leurs trois enfants ont pris la pause devant ce joyau d'architecture moghole, étape incontournable pour les dignitaires étrangers en visite. Le premier ministre rencontrera son homologue, Narendra Modi, Iog, c'est le prénom, donc I-O-G-U-E, ensuite Narendra et Modi. Où il sera question, entre autres, du resserrement des liens économiques entre le Canada et l'Inde. Auprès des gens d'affaires, M. Trudeau veut promouvoir le commerce et l'investissement entre les deux pays. En 2016, le commerce bilatéral de marchandises entre les deux pays a atteint les 8 milliards de dollars, tandis que le commerce bilatéral de services s'est élevé à 2,1 milliards. Les semaines se suivent et se ressemblent à l'aéroport Montréal-Trudeau alors que deux nouveaux incidents impliquant des pointeurs laser dirigés vers des avions ont été signalés au cours des derniers jours, s'ajoutant aux six ayant eu lieu la semaine précédente. Le problème est si important que le gouvernement pourrait aller jusqu'à encadrer la vente de ces objets en apparence inoffensifs en interdisant la vente des modèles les plus puissants ou encore en y apposant un avertissement. Je ne sais pas s'ils sont conscients du fait que s'ils pointent un laser dans le cockpit d'un avion qui est en train d'atterrir, cet avion peut s'écraser, a réagi Marc Garneau, le ministre fédéral des Transports. Pointer un rayon laser vers un avion est un acte criminel passible d'une amende maximale de 100 000 $ et d'une peine d'emprisonnement de 5 ans. Au total, 379 événements du genre ont été répertoriés au Canada l'an dernier et 527 en 2016. Une adresse courriel créée par le gouvernement Couillard pour échanger avec les Québécois sur la politique d'affirmation du Québec et de relations canadiennes n'a pas généré d'engouement puisque seulement 4 courriels ont été reçus en 8 mois, a appris l'agence QMI. L'adresse a notamment été inscrite sur une lettre envoyée à environ 1000 acteurs des milieux politiques et universitaires et publiée sur le site Web du ministère. Sauf qu'en 8 mois, l'adresse courriel n'a reçu que 4 courriels et aura servi à l'envoi d'un seul. La très grande majorité de la correspondance et des commentaires relatifs à la politique d'affirmation ont été reçus à l'adresse courriel publique du ministre ou par courrier régulier, a assuré Gabriel Fallu, attaché de presse du ministre responsable des Relations canadiennes Jean-Marc Fournier. L'adresse a été peu publicisée. La vie d'ébullition d'eau qui touchait les habitants de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve depuis vendredi a été levée hier en milieu de journée. Vendredi dernier, le bris d'une importante conduite d'aqueduc avait forcé la ville à entreprendre des travaux d'urgence. Même si la fuite avait été réparée, les résidents du secteur situé au nord de la rue Sherbrooke, à partir de l'est de la rue Joseph-Arrodier jusqu'à Montréal-Est et jusqu'aux limites de l'arrondissement d'Anjou, devaient faire bouillir l'eau à gros bouillon avant de la consommer. Les citoyens peuvent de nouveau boire de l'eau du robinet sans problème, assurer la ville. La famille d'une disparue cherche encore des réponses. Elle demande à la Sûreté du Québec d'intervenir dans l'enquête. On se sent abandonnée. Elle a peut-être été assassinée. On parle de la famille de Marilyn Bergeron ici. Nous, on le vit comme un homicide, mais sans pouvoir faire notre deuil, laisse tomber André Béchard, la mère de Marilyn. Café Dépôt de Saint-Romuald sur la rive sud de Québec le 17 février 2008 à 16h. C'est la dernière trace qu'a laissée la jeune femme de 24 ans avec sa carte de crédit. La réalité, c'est que l'enquête est toujours à la case départ 10 ans plus tard, affirme Mme Béchard. L'hypothèse qui a été retenue par le service de police de la ville de Québec est celle du départ volontaire suivi d'un suicide. On voudrait que quelqu'un porte un regard neuf sur le dossier, poursuit Mme Béchard. Elle croit que si sa fille s'était réellement enlevée la vie, un corps aurait fini par être retrouvé. Les parents de Marilyn Bergeron pensent pouvoir la retrouver vivante. Hier, des portraits de vieillissement de la femme qui aurait 34 ans ont été dévoilés en conférence de presse. Le Front d'action populaire en réaménagement urbain, le FRAPRU, organisera une marche de 500 km entre Québec et Ottawa afin de revendiquer un plus grand respect du droit au logement. D'après l'organisme de défense des droits des locataires qui célèbre cette année son 40e anniversaire, il s'agit du projet le plus ambitieux de son histoire. Sous le thème de « Ville en village pour le droit au logement », la marche du FRAPRU s'amorcera le 2 septembre à Ottawa et prendra fin le 29 septembre à Québec. Une trentaine d'organisations sociales canadiennes et de regroupements montréalais appuient la démarche. Le FRAPRU souhaite ainsi presser les instances gouvernementales provinciales et fédérales à agir pour améliorer l'accès aux logements et des ménages à faible revenu. Des voyageurs qui prenaient place dans un avion d'Air Canada effectuant la liaison entre Zurich en Suisse et Toronto la semaine dernière ont été exposés à la rougeole, selon les autorités de la santé de la région de Peel. La rougeole est une maladie extrêmement contagieuse qui se répand rapidement parmi les personnes non immunisées ou vulnérables. Les enfants de moins d'un an, les femmes enceintes et les gens avec un système immunitaire affaibli qui étaient sur le vol 879 d'Air Canada devraient contacter immédiatement la santé publique de Peel, a expliqué l'organisme dans un communiqué. Les voyageurs qui se trouvaient simplement à l'aéroport Pearson de Toronto lors du passage de l'enfant malade ne courent aucun risque.
J'aime pas la chanson, on peut pas s'y fier, c'est par réfraction qu'elle préfère entrer. La v'là qui se radine et dès le réveil, elle vient en chafouine, tout rouge l'oreille, et dans ton cerveau, v'là que tourne en rond, à coups de marteau, trois notes à la con. J'aime pas la chanson. J'aime pas la chanson, elle sait pas se tenir. Quand on a le bourdon, ça la fait sourire. Elle pleure sa misère quand le ciel est bleu. Ou bien le contraire, elle sait pas ce qu'elle veut. Faut voir comme elle change d'avis et de ton, et comme elle mélange serviette et torchon. J'aime pas la chanson. Qu'elle se démène, qu'elle se promène, qu'elle s'amourache, qu'elle porte moustache, qu'elle s'époumonne, se tire lipimponne, qu'elle perde son souffle en pantoufle en moufle, qu'elle livre bataille, qu'elle reste où s'en aille, qu'elle dise oui ou non, j'aime pas la chanson. J'aime pas la chanson, elle se prend pour quoi, donneuse de leçons, en grand tralala, la voilà qui hue, la voilà qui gronde, et même pas foutue de changer le monde. Mais tant qu'elle n'essaye qu'avec des flonflons, c'est pas demain la veille, la révolution. J'aime pas la chanson. J'aime pas la la chanson. Souviens-toi, dit-elle, d'un air polisson, de quoi elle se mêle. Ne lui parlez pas, elle répète tout ce qu'elle dit de moi, elle dit de vous. L'amour et la mort et les trahisons, que ce soit mon sort, c'est pas ses oignons, j'aime pas la chanson. Qu'elle se démène, qu'elle se promène, qu'elle s'amourache, qu'elle porte moustache, qu'elle s'époumonne, se tire l'ipimponne, qu'elle perde son souffle en pantoufle en moufle, qu'elle livre bataille, qu'elle reste où s'en aille, qu'elle dise oui ou non, j'aime pas la chanson. J'aime pas la chanson, c'est parce que sans doute j'en connais le fond, les cales et les soutes, tant d'heures de trim et tant de questions à chercher la rime, à bouffer du son. C'est une vie entière pendue au crayon, tout ça pour ne faire pauvres ambitions, rien qu'une chanson. Une qui se démène, une qui se promène, une qui s'amourage, qui porte moustache, une qui s'époumonne, se tire l'ipimpode, une qui perd son souffle en pantoufle en moufle, qu'elle livre bataille, qu'elle reste ou s'en aille, qu'elle dise oui ou non, rien qu'une chanson.
Juliette qui nous chantait « J'aime pas la chanson ».
Les journaux régionaux, Le Droit, Jacques Normand Sauvé, l'insolite mariage du yoga et de la bière. Ils sont une cinquantaine de yogis concentrés sur leur tapis à l'intérieur du pavillon Aberdeen, irradié de soleil. Il est tout juste 11h du matin ce samedi. Au programme, les positions de base du yoga, mais avec cette particularité bien spéciale, une institutrice souriante, un verre de bière à la main, effectue une flexion du corps, tout en vantant la couleur et l'arôme d'une bière brune. « Sentez ce doux parfum », dit-elle à ses élèves. En parlant de la bière, il tient du chocolat et du café. Puis, elle invite ses disciples à prendre une gorgée de bière et à la savourer. Voilà donc tout le principe du programme Yoga on Tap, une des activités de l'entreprise de la yogi Ashley Kokelj d'Ottawa, qui pilote aussi les activités Bike to Beer et Run to Beer. Le directeur général du Brew Fest d'hiver d'Ottawa, Michael O'Farrell, s'associe depuis 3 ans à l'école de yoga d'Ashley Kokelj pour offrir aux visiteurs cette expérience insolite qui existe cependant ailleurs dans le monde. Des programmes Yoga on Tap ont aussi pignon sur rue à Vancouver, Miami et dans le Missouri, entre autres. Le yoga implique de la détente et la découverte de nouvelles sensations, un peu comme la bière. La bière, comme la dégustation de vin et le yoga, c'est très épicurien. Les sensations ressenties quand tu bois une bière sont semblables à celles du yoga. C'est un concept cool, c'est le mélange de deux choses très tendances de nos jours, explique le jeune promoteur Michael O'Farrell, qui est aussi derrière les deux festibières de Gatineau et celui de Toronto. Durant 2 jours, vendredi et samedi, le Brewfest d'Ottawa aura donc accueilli entre 7 000 et 8 000 personnes, à qui on aura offert un choix de 157 différentes bières de microbrasserie locale. À la fin de l'expérience, on aura ingurgité entre 12 000 et 16 000 litres de bière issus de 44 différentes microbrasseries. Le profil type de la clientèle? Elle est majoritairement âgée de 25 à 45 ans, autant composée de femmes que d'hommes, et elle vient s'y balader en couple ou entre amis. Autre étonnante observation, 50% de la clientèle du Festibière de Gatineau arrive d'Ottawa, tandis qu'à peine 5% de la clientèle du Brewfest d'Ottawa est québécoise. Il s'agissait de la 4e édition du Brewfest d'Ottawa, mais une toute première expérience au pavillon Aberdeen du parc Lansdowne, plus vaste que le site des 3 premières éditions, soit l'édifice de l'horticulture. Un visage gonflé à bloc pour Samuel Girard, c'est dans Le Quotidien. En remportant sa première médaille d'or à ses tout premiers Jeux olympiques samedi matin à l'épreuve du 1000 mètres, Samuel Girard a fait soulever le toit du centre communautaire de son village natal de Ferland et Boileau, où près de 150 personnes s'étaient réunies dès 5 heures du matin pour assister à sa prestation. Que d'émotions pour ses concitoyens déjà gonflés à bloc et surtout pour ses proches restés au Saguenay. Dimanche, après la folle journée, le calme était revenu à la maison des grands-parents paternels du champion olympique Gaétan Girard, 86 ans, et Ginette Lavoie, 72 ans. Même ragaillardi par l'exploit de Samuel, le grand-papa était parti à la pêche sur la glace pour retrouver le calme après des émotions aussi intenses. C'est donc grand-mère Ginette qui a fait le point sur cette journée au air de l'ordinaire lorsque jointe en après-midi. On était fatigués. On n'est pas jeune et il nous fait tellement vivre des sensations fortes qu'on devient fébrile. On a hâte à mardi pour les qualifications du 500 mètres. On est confiant car le 500 mètres, c'est vraiment sa force. On est fier de lui. Il a tellement travaillé fort pour se rendre jusque-là, il a sacrifié ses amis, ses loisirs et il a quitté son village pour atteindre son but, a confié la grand-maman qui s'ennuie bien sûr du petit-fils. Toute la journée de samedi a été occupée. Dans l'après-midi, on a eu beaucoup de visites puis on s'est reposé. On a dormi un peu, mais on était encore sur l'adrénaline, avoue Madame Lavoie. Par contre, j'ai très bien dormi. Je suis reposée et prête pour mardi matin. J'arrive de l'épicerie, de la pharmacie et les gens nous arrêtent et nous félicitent. J'ai d'ailleurs rencontré deux caissières qui sont allées avec lui à l'école secondaire de la baie et qui le suivent au jeu. Madame Lavoie est impressionnée par l'appui populaire et celle des résidents de la petite municipalité de 600 habitants. Les gens de Ferland et Boileau et leurs bénévoles ont tellement organisé d'activités, chapeau à eux. Le grand-père de Samuel, lui, est très attaché et il a exprimé ses craintes que le nouveau statut de champion olympique ne change son petit-fils, ce à quoi ce dernier a tenu à le rassurer lors d'une entrevue à Radio-Canada après sa victoire. « Le petit gars qui jouait dans ta cour avec son auto va rester le même », a-t-il confirmé avec son grand sourire. Faut dire que Samuel est gâté. Son grand-père lui a même composé un air d'accordéon. Gaétan Girard a une quinzaine de compositions de son cru dans son répertoire. Quand Samuel a commencé à gagner des médailles, ça l'a inspiré et ils font parfois jouer sa musique à la télévision. Gaétan a expliqué que tout comme Samuel, la musique commençait tranquillement à son rythme et quand Samuel accélère, ça l'a incité à accélérer lui aussi. La fièvre olympique était une fois de plus présente à Ferland et Boileau avec la diffusion en direct des courses du 1000 mètres samedi matin, au centre communautaire où près de 150 personnes ont brunché tout en suivant les exploits de Samuel. La salle était déjà bondée à 5 heures. Les gens étaient sur le bout de leurs chaises. On a vécu des hauts et des bas. « Je pense qu'on en parlera pendant longtemps », a témoigné par téléphone Monique Witzel, agente de développement et communautaire de la municipalité. Les gens ont bien hâte de revoir leur champion olympique. Le groupe de bénévoles derrière les activités des derniers jours travaille déjà à la préparation d'un événement en vue d'accueillir Samuel Girard. Le patinage de vitesse courte piste fait partie des disciplines reines du Canada aux Jeux olympiques. Sur les 28 médailles au compteur, incluant la médaille d'or de Samuel Girard, samedi, on peut aussi dire que la tradition a largement fait sa part pour cette tradition d'excellence avec une belle représentation non seulement en termes d'athlètes, mais aussi de médaillés olympiques. Ainsi, le natif de Chicoutimi, Marc Gagnon, et l'Almatois d'origine, François-Louis Tremblay, font partie des Canadiens les plus décorés aux Jeux olympiques avec 5 médailles chacun. La Philicinoise Marianne Saint-Gelais n'est pas en reste, avec 3 pour l'instant, tout comme son conjoint Charles Hamelin. Ce dernier a d'ailleurs un peu de sang de bleuet de par sa mère, Manon Goulet, fille de l'ancien maire de Péribonka, Gilbert Goulet. Sur le site olympique.ca, on souligne aussi que la meilleure récolte du Canada a été de 6 médailles à Salt Lake City 2002. De ce nombre, 3 appartiennent à Marc Gagnon, François-Louis Tremblay et Marie-Ève Drolet de La Terrière, en ont chacun obtenu une au relais. Le Canada a été de tous les podiums du relais du 3000 mètres féminin depuis sa médaille d'or à Albertville en 1992. Et les patineurs de la région ont encore 2 autres journées pour ajouter des médailles au palmarès canadien. Mardi, Marianne, Valérie et Cassandra feront équipe avec Kim Boutin pour la finale du relais à 6h23 au Québec. Normalement, les Canadiennes devraient monter sur le podium. Il s'agit ici de Marianne Saint-Gelais, bien sûr, de Cassandra Bradette et de la baie riveraine Valérie Maltais. Et je termine en disant, en lisant, si un sentiment de fierté envahit la région en entier. Lorsque Samuel Girard a obtenu sa médaille d'or samedi, ce sentiment était plus fort encore dans un salon de Chicoutimi-Nord, le salon d'Isabelle Proto, plus précisément. Madame Proto a entraîné le patineur avec les F-18 de la baie, mais aussi Kim Boutin à Sherbrooke quelques années auparavant. C'est donc dire que derrière l'or de Samuel Girard et le bronze de Kim Boutin, deux médailles obtenues samedi matin, il y avait un peu, beaucoup, d'Isabelle Proto, une réussite pour laquelle l'entraîneuse refuse, bien entendu, de prendre tout le crédit. Kim et Samuel ont eu 6 entraîneurs durant leur carrière, relativise Madame Proto. J'espère leur avoir apporté quelque chose, mais le travail a été fait par plusieurs personnes. La Saguenéenne d'adoption a entraîné les deux patineurs pendant 5 ans, Samuel de l'âge de 12 à 17 ans et Kim de 9 à 14 ans. Dans le soleil, une nouvelle remontée testée et améliorée à la station de ski Stoneham. La station de ski Stoneham testait cette saison de toutes nouvelles technologies pour ses usagers en inaugurant une remontée mécanique quadruple avec tapis d'embarquement. Une innovation bien reçue par les skieurs qui a toutefois demandé quelques adaptations après un arrêt électrique en début de saison. L'éclipse de son nom est le résultat de plusieurs mois de travail et d'un investissement substantiel de plusieurs millions de dollars dans un partenariat avec Doppelmayr, une entreprise autrichienne ayant choisi d'installer l'un de ses bureaux à Saint-Jérôme, près de Montréal. C'est sûr qu'avec l'arrivée de nouvelles installations, il y a un ajustement à avoir. Quand on a eu réception de la chaise, il y a eu toute une période de rodage et aussi de formation, conseil de Geneviève Clavet, la chef des communications de RCR Québec, entreprise qui est également propriétaire du Mont-Sainte-Anne. Avec l'arrivée des premiers clients, c'est sûr qu'on a dû s'ajuster. On est très conscient que la clientèle est sensible à ça et c'est pour ça qu'on travaille constamment et étroitement avec le fabricant en cas de besoin, étant donné que c'est un nouvel équipement, sensible donc à la sécurité. L'efficacité de la nouvelle remontée semble bien plaire aux amateurs de plein air de la région de Québec, dont les commentaires sont très positifs, selon Mme Clavet. Juste pour terminer sur cette nouvelle, en plus d'accélérer les montées de 3 minutes en moyenne, la chaise quadruple ouvre la porte à une autre clientèle plus âgée qui apprécie le confort et la prise en main facile du système, ajoute donc Mme Clavet. Ici Hélène Denis, vous écoutez le quotidien des quotidiens en ce lundi 19 février 2018. Assez doux comme température. Merci d'être à l'écoute de la station de radio de Canal M de Vues et Voix.
suis venu te dire que tu peux changer.
On vient d'entendre Hubert Lenoir et la pièce Fille de personne.
Actualité culturelle, je vais vous lire la chronique d'Hugo Dumas, Descendre les envolées d'une octave. C'est le titre de sa chronique. Quand Lara Fabian a déclaré hier au gagnant de Mix 4 de la chaîne VRAC, Reggie, 21 ans, qu'elle avait autant à apprendre de lui qu'elle pouvait lui en enseigner, j'ai longuement soupiré devant ma télé. Sérieux? Une interprète avec autant de métiers, de talents et d'albums vendus que Lara Fabian qui prononce ses paroles beaucoup trop intenses pour la qualité de la prestation du jeune homme, c'est refusé. Bien sûr, ces grandes envolées lyriques font partie du jeu de séduction avec les concurrents, que la chanteuse belgo-canadienne a remporté d'ailleurs. Bravo Lara! Mais cette surenchère de superlatifs et de compliments devient répétitive et lassante. On n'y croit plus du tout. Même si Lara, elle, y croit encore. On se dit bien oui, les coachs essaient encore de nous vendre la prochaine Maria Callas, alors que l'on sait très bien que cette personne ne possède pas du tout les qualités artistiques qui lui ont été attribuées. Il ne faut pas prendre les téléspectateurs pour des nonos, ils ont des oreilles eux aussi. Au champion du Mix 4, Lara Fabian a aussi dit que sa voix contenait plus de notes qu'un piano Bösendorfer. C'est gros comme affirmation, ça. Un piano dit standard aligne 88 touches, tandis qu'un modèle impérial du fabricant Bösendorfer en a 97. Tout au long de la soirée d'hier, nous avons eu droit, selon la coach Fabian, à une voix holistique qui va jusqu'au ciel, à une voix rayon laser, à une voix qui a la faculté de transmettre la lumière, et même un prisme à travers lequel passent toutes les lumières de sa dimension. Excessif peut-être? En tout cas, pas toujours clair. J'aime bien la combativité de Lara Fabian, ainsi que son vocabulaire précis, mais elle doit descendre son enthousiasme poétique d'une octave. Question de crédibilité. De son côté, Alex Nevsky abuse du mot « man ». C'est quasiment un tic de langage. « Man, tu devrais venir avec moi. Merci, man. Bravo, man. » Garou reste cool et relax, sans promettre mer et monde aux candidats sur la scène. Voilà pourquoi je l'apprécie. Même si sa réplique paraissait écrite à l'avance, Éric Lapointe en a lancé une très bonne. Si on pouvait voler une voix, t'aurais besoin de barrer tes portes et de mettre un bon système d'alarme parce que j'irais faire un tour. Sacré Éric, on l'aime. Parmi les recrues qui ont été épatantes hier, l'ex-chanteur du duo pop Marabout, Jesse Proto, 32 ans, a fait bonne impression avec sa relecture d'Unsteady de Ex-Ambassadors. Le couple d'Edra Shoah et Ben Cherry a été charmant. Et quelle belle reprise acoustique d'Electric Feel du groupe MGMT ou MGMT. Alex Nevsky a eu droit à 2 étoiles pour le prix d'une. Jordan Labrie, 24 ans, alias le prisme à travers lequel passent toutes les couleurs de sa dimension, s'est attaqué à un classique de Joni Mitchell, Both Sides Now, et a été étonnante. Un autre qui a bien tiré son épingle du jeu, Antoine Lachance, 31 ans de Montréal, un ancien de la formation On a créé un monstre. C'est lui qui a refait Fou n'importe où de Daniel Bélanger. L'avant-dernière participante, Kelly Badeau, 32 ans de Winnipeg, a séduit les 4 entraîneurs avec son Fallen d'Alicia Keys. Entre vous et moi, on a fait beaucoup de cas du premier rappeur de la voix pour adultes, Mario Cyr, 20 ans de Laval. Il n'a pas été explosif, comme l'a dit Éric Lapointe. Rien pour écrire à sa mère, en fait. À La Voix Junior, la petite bombe, Sidney Lallier, 11 ans, était bien meilleure. Un tandem au Gala Artistes? Une grosse rumeur court actuellement concernant l'animation du prochain Gala Artistes me rapporte des espions bien informés. TVA en confierait l'animation à Marie-Pierre Morin et à Jean-Philippe Dion. Le tandem succéderait ainsi à Guy Jodoin qui a piloté les deux dernières éditions de cette populaire fête de la télé. Ce changement de garde tomberait sous le sens. D'abord, TVA insufflerait un vent de jeunesse à sa cérémonie qui a pris un petit coup de vieux, soyons honnêtes. Aussi, la chaîne de Québécois renouvellerait sa confiance en deux têtes d'affiche. Ayant été à la barre de nouveautés qui ont bien tiré leur épingle du jeu cette saison, soit Face au mur et La vraie nature. L'an dernier, Marie-Pierre Morin et Jean-Philippe Dion, accompagnés d'Anouk Meunier, avaient chauffé le tapis rouge du Gala Artistes déroulé devant le théâtre Denise Pelletier. Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve a obtenu deux prix, meilleurs effets spéciaux et meilleure direction photo à la 71e édition des British Academy of Film and Television Arts Awards, le BAFTA, qui avait lieu hier soir à Londres. L'œuvre de Denis Villeneuve était nommée dans 8 catégories. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri de Martin McDonagh, est sorti gagnant de la soirée avec 5 prix. Meilleur film britannique, meilleur scénario original, meilleure actrice, Frances McDormand, et meilleur acteur de soutien, Sam Rockwell. Guillermo del Toro a remporté le prix du meilleur réalisateur pour The Shape of Water, alors que Gary Oldman a été sacré meilleur acteur pour son incarnation de Churchill dans Darkest Hour. Triste nouvelle, le célèbre violoniste français de jazz Didier Lockwood est décédé dimanche à Paris d'une crise cardiaque à l'âge de 62 ans, a annoncé son agent à l'agence France-Presse. Son épouse, ses trois filles, sa famille, son agent, ses collaborateurs et sa maison de disques ont la douleur de faire part de la disparition brutale de Didier Lockwood, indique le communiqué transmis par son agent. Il avait participé à un concert samedi soir au bal Blomet, une salle de jazz parisienne. Didier Lockwood était marié à la soprano Patricia Petitbon. Considéré comme son fils spirituel par l'ancien accompagnateur de Django Reinhardt, Stéphane Grappelli, Didier Lockwood était un grand représentant du jazz français à l'international à travers une carrière rythmée par près de 4500 concerts et plus de 35 enregistrements. Critique du disque « À ta merci » de Fishback, 4 étoiles accordées par Émilie Côté. Un don pour les tubes intelligents. Sensation des dernières francopholies de Montréal, la chanteuse française Fishback est une digne héritière du meilleur de la pop des années 80 en France. Pensez à Catherine Ringer d'Erita Mitsouko, à Mylène Farmer, à la chanson « Voyage, voyage » de Désirless ou même parfois à Indochine. Après un EP, la jeune femme, dont le prénom est Laura, lance un premier album officiel généreux de 14 chansons, À ta merci. L'interprétation est intense, parfois trop théâtrale, mais on finit par y succomber. Voix un peu à la garçonne, mélodie ambitieuse, instrumentation cold wave, même synth, funk ou encore électro-western sur la chanson Feu. Cela donne lieu à des bijoux pop au refrain tout puissant, mais aussi à des pièces plus contemplatives comme Un beau langage et à une ballade minimaliste À ta merci. Fishback dit qu'elle aime être à la limite du bon et du mauvais goût. Disons qu'elle frôle parfois le kitsch et c'est exquis sur sa chanson destinée aux pistes de danse Le Château. Fishback sait aussi faire réfléchir. Avec sa plume forte et très évocatrice, elle ose parler d'attentats et de l'invisible désintégration de l'univers. Elle chante même en arabe sur la pièce finale Ajmal Loga, un beau langage. Impressionnante et douée, Fishback sera en spectacle à l'Astral le 10 mars. Et Alain Brunet, lui, revient sur l'album, le nouvel album de Galaxy, Super Lynx de Luxe, auquel il accorde 3,5 étoiles. Typhon de distorsion, guitare et clavier fondus dans le maelstrom, détonation de percus, voix spectrale mixée tout au fond, au voltage généralisé. Garage rock, southern rock, blues, paroxystique, hardcore, psychédélisme carburant pour grosses cylindriques pilotes de redoutables carnassiers. Depuis une quinzaine d'années, les cycles de Galaxy conduisent Olivier Langevin, Pierre Fortin et Pierre Girard à co-réaliser ce rituel plus ou moins trisannuel, défoulement suprême, chaos jubilatoire exécuté par ces super lynx de luxe, personnel plutôt stable au fil du temps. Olivier Langevin aux guitares, Fred Fortin basse, Pierre Fortin batterie, Karine Pion, voix et percussion, Jonathan Bigra, percussion, François Lafontaine, clavier. Redite, forcément, ce voyage de chasse d'un autre type comporte sa part de redondance. Le châssis et l'artillerie de Galaxy restent les mêmes a priori. Mais on en découvre de nouveaux éléments décoratifs à chaque cycle qui s'amorce, dans le traitement des sons échantillonnés et triés sur le volet, dans la relation entre guitare et clavier, dans le mix des voix, dans les percussions tribales et plus encore. Oreilles de lynx, encore sympa, tout compte fait.
De retour à nos idéaux, je veux marcher sans bagage. Montre-moi à marcher sur l'eau. Je ne veux plus être sage. De retour à mes idéaux, il me faudra du courage. À défaut de marcher sur l'eau, je traverserai à la nage.
On a perdu bien les plumes, on s'y livrait au combat. Moi je te donnerai. Un très long voyage, je les ai vus flotter sur l'eau et atteindre le rivage. On s'y perdu dans la brume, on s'y livrait au combat. Moi je te donnerai. En otage, en oubliant mes idéaux, j'ai bâti ma propre cage.
On a perdu bien des plumes.
Dumas et la pièce Mes idéaux.
Sujet libre, parlons donc de relâche scolaire. Elle porte pourtant bien son nom, mais avec les années, dans plusieurs familles, cette semaine de relâche a fini par rimer avec activités organisées, stress programmé et dépenses démesurées. Bref, tout sauf détente et repos. Et si on prenait le temps de repenser cette semaine de vacances, retour aux sources en 8 points. C'est un article de Sylvia Galipo dans la presse. La définition. C'est du gros bon sens, mais qui dit relâche dit par définition moins de contraintes, souligne Francine Ferland, ergothérapeute et auteur du développement de l'enfant au quotidien aux éditions du CHU Sainte-Justine. On se met dans une atmosphère de vacances, dit-elle, c'est le principe de base. Bref, pas d'horaire, pas de devoirs, ni de leçons. On peut se coucher plus tard, se lever encore plus tard, passer la journée en pyjama. Objectif, on brise la routine, résume-t-elle, et on se crée des souvenirs au passage. La relâche dans le tourbillon, ça c'est la théorie. Mais en pratique, cette semaine est souvent source d'angoisse chez bien des parents qui sont pris dans un tourbillon à temps plein, fait valoir la psychologue Marie-Ève Brabant. Si à longueur d'année, les enfants vivent avec des agendas de ministres entre l'école, les activités parascolaires et les cours du week-end, bien souvent, à la relâche, les parents ont l'impression de devoir divertir leurs enfants. De leur côté, les enfants le demandent parce qu'ils s'y attendent. D'où le défi de ne presque, écrit entre parenthèses, rien programmer pour se reposer, récupérer et finalement reconnecter en famille, poursuit la psychologue. On pense que ce qui est important, c'est ce qu'on va faire, alors que ce qui est important, c'est d'être. Note France Paradis, ergothérapeute, conférencière et chroniqueuse. L'important n'est donc pas d'organiser mille et une activités, mais bien de passer du temps à être là, à 100%. Et pourquoi pas à jouer au Monopoly un après-midi ou construire une cabane dans un lit. Parce que la seule chose qui nourrit le lien, c'est de faire des choses ensemble. Si vous lisez ces lignes et que vous n'êtes pas en congé à la relâche, sachez qu'il y a tout de même moyen de profiter de ces bienfaits relaxants. Oui, même si vous travaillez et que vos enfants sont inscrits au service de garde ou dans un camp. Comment? « Loucer le cadre », entre guillemets, suggère la conférencière et mère de 3 enfants, France Paradis. Pourquoi ne pas laisser les enfants dormir dans le salon, choisir le menu du souper et se coucher plus tard? Il y a quelque chose qu'il faut qu'on lâche, poursuit-elle. Il faut sortir du cadre qui maintient l'ordre. C'est ça qui fait qu'il y a une relâche. Et c'est fondamental, pas seulement pour la forme, mais surtout pour le fond. On en a besoin parce qu'on ne peut pas maintenir tout le temps notre état de performance. Il faut qu'il y ait un moment où on se lâche. Tous les experts consultés le confirment. Ce que ça prend à la relâche, c'est du temps en famille, sans contrainte d'horaire et non de l'argent. L'important, c'est d'avoir du plaisir en famille. Créer un environnement chaleureux, reprend Francine Ferland. Tant mieux si vous avez les moyens de créer ce bel environnement en voyage dans le sud ou sur une montagne en ski. Mais il n'est pas nécessaire de chercher si loin, ni de payer si cher. Au contraire, construire un fort, faire une bataille de boules de neige, aller à la piscine du quartier, regarder la télé, jouer aux cartes, c'est gratuit. Surtout, vous vous épargnerez ici tout le stress associé à un quelconque investissement. Parce que des fois, c'est stressant de payer cher. Tu te mets une pression. Si tu dépenses 8 000 $ pour aller dans le sud, tu ne veux pas que tout le monde soit malade et que ce soit un échec, signale Odile Archambault, auteure de « Maman a un plan ». Bien sûr, si vos enfants vous demandent pourquoi vous ne faites rien, pourquoi vous ne partez pas en vacances comme tous les amis, vous devez saisir cette occasion pour avoir une conversation familiale. Mais avant d'énumérer ce que vous ne faites pas, pourquoi ne pas plutôt insister sur ce que vous faites? Et si vous économisez pour vos vacances d'été, ça se dit, vous ferez une petite leçon d'économie et de finances personnelles au passage. Et pourquoi pas de bonheur personnel tant qu'à y être? Avec les réseaux sociaux, on est tellement exposé à ce qu'on pense être une journée parfaite. Il faut s'entraîner à voir ce qui fait notre bonheur, rappelle la psychologue Marie-Ève Brabant. Et oui, pour vraiment se relâcher et se reposer, il faut aussi prendre le temps de ne rien faire. Tout simplement, laisser les enfants s'ennuyer, oser la spontanéité, ou au contraire, le farniente. Pourquoi pas carrément passer une journée devant la télé à enfiler des séries en groupe? L'important, c'est d'être capable de cerner ses besoins à soi et à sa famille, souligne la psychologue Marie-Ève Brabant. Et ça, il n'y a que vous qui en êtes capable, car c'est vous qui vous connaissez le mieux. C'est aussi une pause pour les parents, ceux qui ont le luxe de pouvoir prendre congé s'ils peuvent prendre du temps pour eux, pour récupérer, c'est une bonne chose, ajoute-t-elle. Quoi qu'on pense, ce n'est pas parce qu'on fait un gros voyage plein d'activités ou qu'on mange un plus gros gâteau qu'on sera en définitive plus heureux. Le bonheur, ce n'est pas mathématique, signale Lucie Mandeville, psychologue et auteure de plusieurs livres sur le bonheur. Mais c'est éphémère. Morale, faire vivre des petits bonheurs au quotidien fait en sorte que le bonheur dure plus longtemps, conclut-elle. À méditer, loin des réseaux sociaux, entre deux parties de cartes, un casse-tête, et une tasse de chocolat chaud, extra guimauve. Nouvelle dans le Journal de Montréal, Afterlife soulève la colère des salons funéraires. L'entreprise de Québec repique les avis de décès sur son site sans consentement. Afterlife reproduit sans consentement nos avis de décès. Certaines familles sont troublées par cette façon de faire alors que des avis incomplets avec des erreurs sont publiés, déplore la directrice aux finances du groupe funéraire Garneau, Valérie Garneau. Selon cette dernière, Afterlife va plus loin en vendant aux proches des personnes disparues sur son site des chandelles virtuelles, des fleurs virtuelles et des messages de condoléances. Or, si les gens décident d'envoyer des fleurs et des chandelles qui ne se rendent jamais aux familles en deuil, on ne le voit pas et personne ne le sait. L'argent va où? Se demande Mme Garneau. À la Corporation des thanatologues du Québec, on se dit également troublé par le modus operandi d'Afterlife. Nous déplorons le fait que des familles en deuil soient prises par surprise et au dépourvu de voir apparaître des avis de décès de leurs proches sur des sites Internet pour lesquels ils n'ont pas donné leur autorisation et qui s'en servent pour vendre des trucs sans le consentement de personne, indique la directrice générale Annie Saint-Pierre. D'après la corporation, les familles des défunts autorisent les salons funéraires à publier les avis de décès dans des publications précises, mais aucune autorisation n'a été accordée au site Afterlife. Nous devons respecter ce lien de confiance en nous assurant que personne ne s'en sert à des fins commerciales notamment, ajoute Mme Saint-Pierre. La Corporation des thanatologues du Québec dit avoir mis en demeure Afterlife afin de faire cesser cette pratique. Afterlife ne fait d'ailleurs pas que parler d'elle au Québec. Dans plusieurs provinces canadiennes, l'entreprise québécoise soulève également la grogne de familles endeuillées. Le mois dernier, une famille du sud de l'Alberta déplorait qu'Afterlife eût publié sur son site Web l'avis de décès d'un de ses proches sans autorisation. L'avis de décès n'avait pas été rédigé par la famille, comportait de nombreuses erreurs, et la photo avait été repiquée sur le compte Facebook de la défunte, indiqué un membre de la famille à la chaîne Global News. À Terre-Neuve, une famille éplorée menace de poursuivre Afterlife pour copie sans autorisation d'un avis de décès, dont la propriété intellectuelle appartient à la famille, selon l'avocate Erin Best, de St. John's, interrogé par le journal Western Star. Joint par le journal, le PDG d'Afterlife, Pascal Paco-Leclerc, a refusé de commenter le dossier. L'homme d'affaires de Québec, qui a cofondé la chaîne de restaurants Taizone, revendue depuis au groupe MTY, détient plusieurs plateformes numériques sur le web. Il est aussi PDG de la société Air Media, spécialisée en développement web et d'applications mobiles. Merci d'avoir été à l'écoute de Le Quotidien des quotidiens. Merci Maurice Bolduc à la mise en onde et au choix musical. Et je vous invite à rester là puisque dans un petit moment, si vous nous écoutez en direct, place à l'émission Les Paractualités.